Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien. Pour certains, vous avez fait une longue marche à pied pour venir à la maison de prière. Il n'y a pas de moyen de transport, excepté le véhicule aujourd'hui. Et une de nos sœurs disait à mon épouse, ce matin, je suis parti à 7h30 pour faire la marche à pied pour venir au culte. Et je disais à mon épouse, pour le retour, il faut que quelqu'un ramène cette sœur. Et je me suis dit, nous n'avons pas pensé, parce que l'année prochaine, ça sera un autre jour que le dimanche, mais le jour où ça tombera un dimanche, on fera en sorte que chacun puisse faire un détour pour prendre l'un ou l'autre pour venir au culte d'adoration, pour venir à la maison de prière. J'aimerais cet après-midi partager avec vous, c'est écrit sur le programme « C'est assez, ne me parle plus » de cette affaire. Ce n'est pas un père qui dit à son fils « Ne me parle plus, c'est assez de cette affaire. » Ce n'est pas un époux, une épouse, c'est Dieu lui-même qui emploie ce langage « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du Deutéronome, chapitre 3e, et le verset 23e. En ce temps-là, c'est Moïse qui dit « J'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits. Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Amen. Et puis, ne perdez pas votre page, une autre lecture dans le livre des psaumes, au psaume 106e, et le verset 32e. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit. Et il s'exprima légèrement des lèvres. Dans notre lecture, nous allons retenir Moïse s'exprima légèrement des lèvres. C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. C'est suite à cette prière de Moïse quand il dit « J'implorai la miséricorde de Dieu. » À maintes reprises, il n'avait pas réussi à changer le cœur de Dieu, mais néanmoins, dans certaines situations, Dieu était revenu à cause de sa miséricorde, de l'intercession de Moïse dans certaines situations. Et donc, il pensait que Dieu pouvait changer d'avis. Lorsque vous lisez le livre de Jonas, on voit que les Niniviens ont dit « Qui sait si Dieu ne reviendra pas ? Qui sait ?» Et ils ont eu raison de croire et de dire « Qui sait ?» Et donc là, il s'attend à quelque chose de la part de Dieu, c'est que il espère que tout n'est pas fini pour lui, mais qu'il y a encore un espoir que Dieu puisse revenir sur sa décision. Et là, Dieu va lui répondre « C'est assez. » « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Et dans notre langage, il est arrivé que nous puissions exprimer, et nous ne sommes pas Dieu, mais une certaine forme de ce vocabulaire « C'est assez, ne me parle plus » de cette affaire. La Bible dit que Moïse s'exprima légèrement des lèvres. Et vous comme moi, dans certaines situations, très certainement, ça nous est arrivé non point pour nous justifier, mais que nous nous sommes exprimés aussi légèrement des lèvres. Sous l'effet d'une contrariété, nous avons pu avoir un excès de colère intérieurement. Une parole est sortie de notre bouche et elle a fait beaucoup de mal. Et la Bible nous dit que Moïse s'exprima légèrement des lèvres. Ce qui veut dire que vous, comme moi, nous pouvons nous aussi malheureusement nous exprimer légèrement des lèvres. Tout ce qui est à l'intérieur de notre cœur est encore notre propriété, mais dès lors que c'est sorti de notre cœur par le moyen de nos lèvres, les choses prennent une autre dimension. La parole de Dieu nous raconte le récit de cette histoire. Le peuple murmura parce qu'il n'y avait plus d'eau. Quand on lit l'Ancien Testament, on remarque que c'était pratiquement et assez souvent que le peuple murmurait dans sa marche contre Dieu. Les enfants sont très gentils, mais de temps à autre, ils murmurent contre leurs parents. Les parents murmurent aussi, les jeunes murmurent, les anciens murmurent, et nous savons confesser, conjuguer le verbe murmurer à tous les temps. C'est pas pour nous aider, mais ça fait partie malheureusement de l'être humain. Lorsque Dieu nous révèle que le peuple n'avait plus d'eau, bien sûr, c'est quelque chose de terrible lorsqu'il n'y a plus d'eau. Je me souviens avoir fait bien et bien des kilomètres à travers les pistes et de ne point avoir vu un endroit pour trouver de l'eau. Et dès qu'on trouvait l'eau, ce fut avec joie, avec l'exclamation « De l'eau, enfin !» Nous ne savons point manquer d'eau. Il suffit d'ouvrir le robinet, l'eau vient, et si elle tarde à venir, tout de suite on va composer un numéro. Comment se fait-il qu'il n'y a plus d'eau ? Mais là, il n'y avait plus d'eau. Alors, à différents endroits, on voit que l'eau avait manqué. Moïse, en réalité, quand il va se présenter devant Dieu, parce que le peuple n'a plus d'eau. N'oublions point que c'était le désert, qu'il y avait quand même 600 000 hommes, plus les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les vieillards, ce qui représentait environ 2 millions de personnes. Et dans cette époque de notre 21e siècle, on recherche toujours le prédicateur qui est la plus grande assemblée. Mais on ne recherche jamais le prédicateur qu'à la plus petite assemblée. Et là, ce prédicateur, Moïse, avait une conduite extraordinaire, 2 millions de personnes. Ce n'était pas aussi facile que cela. Et il y avait donc une pression sur Moïse, sur Aaron. Il n'y a plus d'eau. Et le Seigneur, l'Éternel, avait révélé qu'en réalité, eh bien, s'il n'y avait point d'eau, c'est qu'il y avait une réalité, il y avait quelque chose d'important. La parole de Dieu nous révèle déjà que le peuple allait point entrer. Ça allait mourir cette génération dans le désert. Et la Bible nous dit à cause de leur incrédulité. Nous devons veiller de ne point sombrer dans l'incrédulité. Pour avoir vu les plus grands et les plus beaux miracles, Israël fut tout particulièrement privilégié de voir tous les miracles. Et nous sommes attirés par le miracle, les prodiges, les sourds, les aveugles, les muets, etc. Et Dieu soit béni. Mais pour Israël, souvenez-vous en Égypte, tous les miracles, tout le surnaturel qu'Israël avait vécu. Souvenez-vous de la traversée de la mer Rouge. Souvenez-vous de tous les miracles extraordinaires. Ça avait marqué leur vie, leurs yeux, et pourtant, ces hommes oublièrent non seulement le Dieu des miracles, mais aussi le Dieu lui-même. Israël, la décision pour Dieu est irrévocable. Vous n'entrerez point dans le pays de Canaan, dans le pays de la promesse. Et toi non plus, Moïse, tu n'entreras point. Toi non plus, Aaron, tu n'entreras point. On pourrait dire à vue humaine, la décision, elle est dure. Mais après tout, quand on voit ce que Dieu va faire, parce que Dieu est celui qui est la réponse, et Moïse va donc recevoir de la part de Dieu de prendre le bâton qui se trouve devant le témoignage, et après avoir convoqué l'assemblée, il devait parler au rocher qui donnerait ses eaux. Voyez-vous, quand Dieu nous parle, il parle d'une manière très précise. Il fallait de l'eau. Et le peuple était convoqué. Et quand Moïse a pris le bâton et frappé le rocher à deux reprises, Dieu ne lui avait pas demandé de faire ça. Dieu lui avait seulement demandé de parler, non point non plus à l'assemblée, mais de parler au rocher. Quelle différence entre parler au rocher et frapper le rocher, non pas une fois, mais deux fois. Et pourtant, quand le miracle s'est produit, du rocher coula en abondance l'eau, on aurait pu dire, voyez-vous, c'est extraordinaire. Il m'est arrivé d'entendre certaines personnes dire, voyez-vous, c'est vrai, j'ai péché. C'est vrai, je me suis rebellé contre Dieu. Mais regardez, Dieu m'a quand même béni. Et si Dieu m'a béni, c'est qu'il est en plein accord avec toi et avec moi. Puis-je vous dire que la bénédiction de Dieu qui nous est accordée n'est toujours pas une garantie que Dieu est d'accord avec nous. Vous pouvez avoir péché et Dieu va continuer pendant un temps à vous bénir. Est-ce que Samson n'a pas joué avec le péché? Est-ce que Samson s'est dit, je m'en tirerai comme les autres fois? Mais la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dieu nous bénit à cause de sa richesse, de sa bonté, de sa grâce et de sa bénédiction. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dieu avait dit, tu parleras au rocher. La désobéissance, elle a permis à Dieu de sanctionner. C'était quelque chose de terrible d'entendre la voix de Dieu. Non seulement le peuple n'entrera point en Canaan, mais toi, tu n'entreras pas. Aaron, tu n'entreras point non plus. On se dit, mais Dieu va revenir sur sa décision. Après tout, qu'est-ce qu'on trouve dans cette affaire? Eh bien, quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit aussi que Dieu avait donné un enseignement dans le livre des Nombres. La parole de Dieu nous révèle qu'en réalité, au chapitre 19e et au verset 14e. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque rentrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Et vous avez remarqué dans notre lecture du livre du Deutéronome, au chapitre 3e, la parole de Dieu et le contexte nous montrent aussi que Marie venait de mourir. Et Marie était une femme qui a joué aussi un rôle important dans la vie d'Israël. Quand vous lisez le livre de l'Exode au chapitre 15e, elle était là avec le tambourin, elle était en train d'entraîner les femmes à louer le Seigneur. Et vous remarquez aussi la vie de Marie dans l'Ancien Testament, dans le livre du Pentateuque. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Vous comme moi, nous sommes entrés dans une maison mortuaire. Et malheureusement, nous y entrerons toujours. Eh bien, lorsque le mort était là, lorsque Marie, son corps, était là, eh bien, ça s'appliquait. Ça s'appliquait. Elle était impure. Nous étions là un service funèbre il n'y a pas très longtemps, et les membres de la famille, les uns après les autres, excepté nous, pratiquement, peu d'autres, mais chacun embrassait le mort ou la morte. C'est des fois quelque chose de culturel. On embrasse le mort, mais on sait qu'on n'a aucun contact, on sait que c'est comme cela. Et il y a donc là, dans cette chambre, quelque chose. On se retrouvait impur pendant 7 jours. Alors, bien sûr, nous n'allons point nous retrouver dans l'impureté parce que nous sommes entrés dans une chambre mortuaire. Et vous n'allez pas dire, mais je ne vais plus rentrer parce que je serai impur pendant 7 jours. C'était dans le désert et c'était pour le peuple d'Israël. Mais voyez-vous, ce qu'il y a aussi d'important, c'est qu'en réalité, cette crise, elle éclate après l'enterrement de Marie parce qu'il y avait un manque d'eau. Et donc, il n'y avait plus d'eau pour la purification. Et tout le monde se sentait impur. Regardez qui a fait les funérailles de Moïse. C'est Dieu. Personne ne connaît l'endroit. Israël ne connaissait pas l'endroit. Sinon, ça aurait été un défilé, un défilé, un défilé. Puis ensuite, on aurait mis un grand caveau et il y aurait eu un pèlerinage parce que Dieu est celui qui a privilégié son peuple de tomber dans l'idolâtrie. Mais quand quelqu'un joue un rôle important, c'est quelque chose qui est en nous, on se déplace. On se déplace. Et là, très certainement, des milliers étaient venus devant la Marie. Des milliers de personnes. Ils vivaient ensemble. Et la parole de Dieu nous révèle aussi qu'il y avait l'eau qui, en réalité, était pour purifier. Si vous lisez ça en détail, vous voyez qu'il fallait l'eau pour être purifié. Il n'y avait plus d'eau. Alors que faire quand il n'y a plus d'eau? La contagion va venir. Et tout le peuple allait devenir impur. Et comment faire l'aspersion puisqu'il n'y a plus d'eau? Comment faire ce que Dieu a ordonné? Il n'y avait plus rien. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Quand je reviens au service funèbre, les uns les autres allaient embrasser la défunte, et ensuite les uns les autres s'embrassaient. On ne regarde pas toujours nos gestes, mais là il y avait quelque chose où Dieu donnait sa loi. Et vous serez impur, vous ferez ceci, vous ferez cela, vous prendrez un vase et vous mettrez de l'eau. Mais il n'y a plus d'eau. Tout le peuple va devenir impur. Il n'y a plus d'eau. Alors nous sommes tous maintenant des impurs. Comment allons-nous faire pour nous en sortir? Alors Moïse, peut-être, n'avait-il pas prévu l'avenir? Est-ce quelque chose où Moïse n'a pas vu? Ceux qui dirigent doivent savoir avant même le problème. c'est pas toujours facile de prendre des décisions avant, mais Moïse, très certainement, avait une part de responsabilité. Et Dieu va intervenir en faisant ce miracle pour que ce rocher, de ce rocher puisse sortir l'abondance de l'eau pour que le peuple soit purifié. Quand il n'y a plus rien, que voulez-vous faire? Pour Israël, c'était important. Mais quand l'eau est venue et que Moïse a commis son erreur, qu'il s'est exprimé légèrement des lèvres, Dieu dit, tu n'entreras pas. Moi, je crois que c'est normal que Dieu soit plus sévère avec ses serviteurs qu'avec parfois les chrétiens. Oui. Ah oui. C'est normal. C'est normal. S'il y a de la légèreté au milieu des serviteurs de Dieu, et les chrétiens voient cette légèreté, il est normal que Dieu intervienne, parce que c'est normal. Vous comprenez? Vous comprenez? Je disais l'autre fois à une personne de loi, je sais qu'en tant d'ecclésiastique, je serai jugé 3 fois plus sévèrement à cause de ce que je suis. Cette personne m'a répondu, moi aussi à cause de ce que je suis et de ce que je fais, je suis jugé plus sévèrement qu'un citoyen. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et que Dieu intervienne dans l'histoire de son peuple. Quand j'implorais la miséricorde de Dieu, je voulais changer, que Dieu change à mon égard. Je voulais conduire le peuple dans le pays de Canaan. Mais Dieu m'a dit, c'est fini, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Je ne veux plus t'entendre venir vers moi. Je ne veux plus t'entendre prier. C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pourquoi que Dieu soit béni? Parce que dans notre désert de notre vie, dans le dessèchement spirituel de notre vie intérieure, dans notre marche solitude, où nous pensons parfois à notre passé, où nous pleurons, nous gémissons, nous voudrions revenir sur le passé. Nous voudrions qu'il soit à nouveau dans la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Je me souviens comme si c'était encore aujourd'hui. C'était en 1995. Je partais pour un pays, pour une mission en Afrique. Et je me souviens conclure la mission, la réunion de 16 heures, par une parole prophétique. Je me souviens d'avoir prophétisé ce dimanche après-midi, ne commets pas l'irréparable. Et quand Dieu m'a donné cette parole prophétique, et j'ai prophétisé ne commets pas l'irréparable. L'irréparable, je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours? Mais lorsque je suis rentré de cette mission, quelque temps après, j'ai appris l'irréparable, c'est que le chrétien avait quitté sa femme entre-temps. Ne commets pas l'irréparable. Ne commets pas l'irréparable.
nous sommes avec nos affaires. Et parfois, il nous arrive de ne point avoir tort. Nous avons été victimes. Nous avons été malmenés. Et là, nous sommes avec cette plaie dans notre cœur. Nous sommes avec cette affaire. Nous sommes chargés de cette affaire. Et puis Dieu, dans son amour, nous a envoyé son Fils unique vers des hommes et des femmes qui étaient remplis d'affaires, de toutes sortes d'affaires. Il suffit de lire les évangiles. Mais Dieu, dans sa bonté, chaque être humain qui l'invoquait faisait grâce. Ne me parle plus de cette affaire. Quand les gens étaient pardonnés, ils ne parlaient plus de cette affaire. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous auriez aimé Vous connaissez l'histoire de l'homme qui habite à Gadara, qui habitait à Gadara. Et comment on dit cet homme? Comment on dit de cet homme? Écoutez bien, prédicateur, c'est rare s'il ne dit pas, c'est le possédé de Gadara. Et voyez-vous, on l'appelle toujours le possédé de Gadara. Sommes-nous logiques dans notre vocabulaire? Puisque Jésus l'avait délivré, vous auriez été à sa place. Vous aimeriez encore que 20 siècles après, on dise encore, c'est le possédé de Gadara. Mais il avait été délivré par le Seigneur. Et quand il y a un baptême par immersion, et que les personnes m'expliquent leur témoignage, me disent ce qu'ils ont vécu, leur dit ça, c'est votre vie privée. Ne le dites pas dans votre témoignage. Gardez cela pour vous. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer, qu'on a expliquées à Dieu, qui a réglé cette affaire. Et si on revient pour dire au Seigneur, « Ah, j'ai telle et telle affaire !» Mais le Seigneur pourrait nous répondre, « Ne me parle plus de cette affaire. » Je t'ai pardonné, je t'ai purifié, j'ai régénéré ta vie, j'ai transformé ta vie. Regarde, le soleil brille, mon soleil de justice, il brille pour toi. Et dans notre 21e siècle, est-ce que dans cette période d'incertitude, de désert spirituel, comme je le disais ce matin, vendredi soir, faisant la réunion, quelqu'un s'est approché et puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux recevoir? Il dit, je suis à l'héroïne, je fume. Et maintenant, je sais que c'est la drogue en plus. Et puis, je suis alcoolique. Puis à la sortie, je lui dis, mais où habites-tu? Il dit, je suis SDF. Je lui dis, je t'apporterai un petit colis, un colis. Mais il dit, je suis hébergé chez des chrétiens. Oh, Dieu soit béni! Dieu soit béni! Mais j'espère que dans peu de temps, il sera délivré. Cette affaire sera classée. Et Dieu lui dira, ne me parle plus de cette affaire. Il n'y a parfois que le diable qui veut nous reprocher notre passé. Même s'il est effacé de la part de Dieu, il vient remettre ces choses. Tu ne t'en sortiras jamais. Ce que tu as fait est impardonnable. C'est le blasphème contre l'esprit. Et quand je dis aux gens, mais qu'est-ce que c'est que le blasphème contre l'esprit? Je ne sais pas. C'est la voix qui me dit cela. Blasphème de l'esprit, c'est ce que faisaient les pharisiens. C'est Dieu qui guérissait. C'est Jésus qui guérissait. Et les gens disaient, non, c'est pas Dieu qui guérit au travers de toi. Mais c'est le prince des démons. c'est assez, ne me parle plus de ce passé. Ne me parle plus de cette affaire. Je l'ai réglée à la croix du calvaire. Le sang de Jésus t'a purifié de chaque péché. Le sang de Jésus vous a purifié de chaque péché. Quel qu'a été votre passé, eh bien le sang de l'agneau vous a purifié. Le Seigneur a effacé cette dette. Ne me parle plus de cette affaire. Et même s'il y a des personnes qui vous parlent encore de cette affaire, parce qu'ils ont trouvé le point faible dans cette affaire, elles n'ont pas le droit. Regardez Noé, après le déluge, il est devenu viticulteur. Et il ne savait pas que le degré d'alcool, et il s'est retrouvé dans un état où il n'aurait pas dû se retrouver. Et là, il était dans la tente, dans cette nudité. Et un de ses fils, voyant la nudité de son père, c'est drôle qu'il puisse déjà penser ça, je vais affaiblir son autorité. Et des fois, les défauts des autres nous rendent service parce que ça nous permet de diminuer leur autorité. Alors il est allé chercher ses frères. Venez voir notre père, dans quel état il est. Venez voir comment il se comporte. Il est ivre, il est mort, il est dans sa nudité. Et quand les deux frères sont arrivés, ils n'ont point fait ce que l'autre frère avait fait, mais ils ont pris une couverture, et la Bible nous montre qu'à reculons, ils n'ont pas vu la nudité, mais ils ont couvert la nudité de leur père. Qui sommes-nous pour reprocher le passé à quelqu'un ? Qui sommes-nous pour reprocher la vie à quelqu'un ? Qui sommes-nous, pécheurs, rachetés par grâce, pour montrer du doigt ce que tu as fait mal? Un seul nous le fait, nous le reproche, c'est le diable. Un seul. Et pourtant le Seigneur nous a libérés, nous a pardonnés, nous a sanctifiés, nous a régénérés. C'est comme si quelqu'un disait, ah, il est devenu pasteur. Mais je sais ce qu'il a fait avant. Et je le laisserai parler. Et puis, quand il aurait fini de parler, je dirais, mais tu as marché avec moi, mais tu ne connaissais pas ma vie. Parce que tu as oublié ça encore. Tu as encore oublié ça. La liste, elle est longue, elle était longue. Mais le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de chaque péché. Le sang de l'agneau nous a purifiés de chaque péché. Et dans le désert de cette vie, notre rencontre doit être avec celui qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Et il faut lui parler une fois pour toutes de votre affaire. Et quand vous lui avez parlé de cette affaire, qui vous fait tant souffrir. La Bible nous dit que Jésus, par son sang, nous purifie de chaque péché, nous libère de ce fardeau, nous transforme et nous permet de vivre une gloire, une vie à la gloire de Dieu. L'eau, c'est pas elle qui purifie, c'est Jésus par son sang précieux. C'est sa parole qui sanctifie, qui fait un travail de régénération. C'est sa parole qui transforme notre cœur. C'est sa parole qui nous permet d'aller de l'avant. Conclusion, vous êtes peut-être entré dans des lieux impurs, quels que soient les lieux. Mais une chose est certaine, c'est que vous avez le droit de vous arrêter et de remettre tout à Dieu et de vous compter sur sa grâce. que de fois des personnes ont dit « Comment je vais faire pour pardonner ?» Et je réponds « Pardonner par vous-même, c'est impossible. » Mais demandez à Dieu qu'il vous aide pour pardonner. Et pour pardonner au plus profond, il n'y a que Dieu qui peut. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à pardonner, à oublier. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Jésus qui peut nous aider. Il n'y a que sa parole qui peut nous aider. Cette eau de la vie, ce fleuve de grâce veut descendre dans votre cœur. C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Et vous entrerez dans la gloire de Dieu. Vous entrerez dans le royaume de Dieu. Vous allez naître de nouveau. Repartir tout à zéro, lever la tête, vous réjouir, vous fortifier, que son nom soit béni. Amen. On va prier le Seigneur. Son nom est Jésus. On pourrait se lever ensemble. Alléluia. Notre frère Pascal va bien vouloir faire la prière pour votre vie. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Praise God very much. Just go. Thank you, He is mighty. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. So may God very much, just mine. Alléluia. On va chanter ensemble. Son nom est Jésus. Chantons avec le groupe de chant. Alléluia. Et si vous avez besoin, approchez-vous.